est une rediffusion. Religion du monde. Geneviève Delru.
C'est probablement l'un des événements les plus énigmatiques du parcours dont nous sommes issus. Comment l'exécution d'un agitateur religieux dans une province périphérique de l'Empire romain a-t-elle pu donner lieu à l'émergence d'une des religions les plus considérables de l'histoire humaine? On se trouve devant une série d'événements, de développements, qui normalement n'auraient pas dû avoir lieu.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jésus, l'enfant juif, né dans la Palestine occupée par les Romains, Jésus qui mourra crucifié à Jérusalem à l'âge de 33 ans, au terme d'une courte vie de prédication, n'a laissé aucun écrit, créé aucune institution, aucune religion. L'histoire aurait pu en effet s'arrêter là, à sa mort, sans la fougue missionnaire de Paul et des apôtres portés par la conviction intime que le Messie tant attendu d'Israël s'était incarné dans cet homme fils de Dieu. Alors, comment le christianisme s'est-il construit? Comment s'est-il édifié? Comment s'est-il extrait du judaïsme dont il est issu? Comment s'est-il répandu dans le pourtour méditerranéen puis au-delà? Ce sont ces premiers temps du christianisme, cette naissance à partir de petites communautés chrétiennes détachées du judaïsme qu'explique de façon très pédagogique l'ouvrage « Après Jésus, l'invention du christianisme » publié chez Albin Michel et qui fait suite à « Jésus, l'encyclopédie » publié chez le même éditeur en 2017. Là encore, de nombreux contributeurs, 80 au total, sous la direction de Roselyne Dupont-Roch et du père Antoine Guggenheim. La postface de l'ouvrage de près de 700 pages est signée par le philosophe et historien Marcel Gauchet que nous venons d'entendre en ouverture de l'émission. Avec nous dans ce studio, Roselyne Dupont-Roch.
Bonjour.
Bonjour madame. Interviendra également dans cette émission le père Antoine Guggenheim, ancien directeur du pôle de recherche des Bernardins et actuel curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance dans le 11e arrondissement à Paris. Roselyne Dupont-Roch, merci d'être avec nous dans ce studio. Alors, je rappelle que vous êtes normalienne, théologienne, bibliste, spécialiste de l'Orient ancien et que vous avez enseigné le grec et l'exégèse du Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris. Alors, une première question sur le titre. Après Jésus, l'invention du christianisme. Invention.
Oui. Un titre provocateur.
Ah, complètement.
Un titre provocateur, et nous en avons eu conscience. D'ailleurs, il y a eu des débats à l'intérieur même du comité éditorial. C'était provocant. On l'a maintenu. Finalement, on l'a maintenu et on est bien d'accord de le maintenir. On entend invention, inventer au sens fort et latin du terme. In ou enire, venir dans, toujours revenir à cette expérience finalement bouleversante qu'ils ont fait de la rencontre avec le Jésus ressuscité et à ce moment où ils ont été poussés hors d'eux-mêmes pour, dans une fidélité à ce qu'ils avaient vécu, aller l'annoncer. Ils sont revenus sans arrêt, ils ont même été accompagnés par cette expérience et ça les a contraints à inventer, à créer des nouvelles façons de lui être fidèles. Puisque Jésus n'avait, lui, à peu près rien fixé.
La résurrection, c'est l'événement fondateur du christianisme.
On va dire que c'est le point de départ, cette rencontre. Enfin, c'est un témoignage, la résurrection. Nous la disons à partir du témoignage des apôtres. Jamais personne n'y a assisté.
Et c'est une question de foi, évidemment.
C'est une question de
évidemment.
Foi, mais pour eux, ça a été une expérience. Et d'ailleurs, Paul, qui n'avait pas connu Jésus dans les jours de sa vie terrestre, a fait la même expérience. Une expérience qui renversait complètement ce qu'ils avaient vécu jusque-là et qui, au fond, les sortait d'eux-mêmes pour aller vers d'autres. Paul dit, j'étais envoyé vers les nations, vers les païens, vers les autres. Mais c'était la même chose pour chacun. Il fallait aller le dire, il fallait aller l'annoncer, il fallait le célébrer et il fallait trouver les moyens d'en vivre. Et les formes, parce qu'il fallait les inventer, à partir d'un judaïsme qui était leur berceau culturel. Mais c'était quand même autre chose qu'il fallait dire et qu'il fallait vivre.
Alors, Roselyne Dupont-Roch, travailler sur les premiers temps du christianisme, c'est extrêmement compliqué, parce que l'archéologie ne nous livre pas grand-chose, et les textes non plus.
Alors, il y a des découvertes actuellement. Il y a toujours des découvertes, même archéologiques. Même archéologiques. En 2005, on a trouvé en Palestine, à Kfar-Hotnay, ce lieu où il y avait une salle avec des mosaïques qu'on a maintenant et l'emplacement d'une table qui était le lieu où était vivait la légion Ferrata au IIe siècle, et où on a retrouvé évidemment les traces d'une table eucharistique avec des inscriptions « à Jésus-Dieu », offertes à Jésus-Dieu. Donc l'archéologie avance, même si elle est prudente, et elle trouve des choses. On a aussi la découverte de plus en plus, en tout cas la mise au jour, de ces lettres entre évêques, de ces lettres pastorales au IIe siècle,
parce
IIe,
qu'on IIIe
siècle.
On parce écrit
que
beaucoup,
les évêques, appelons-les évêques, les surveillants, les responsables de communautés dans les grandes villes de l'Empire, il y en avait déjà très vite, donc ça va très vite, s'écrivent entre eux pour discuter, de la façon d'organiser la vie des communautés dont ils sont responsables.
Oui, alors là, Roselyne Dupont-Roc, on a déjà fait un grand bond, parce que les premiers temps du christianisme, il n'y a pas d'évêque.
Il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de surveillant, il y a des gens. Alors, on dit Paul est le premier, évidemment, parce que Paul est le premier dont nous avons les lettres. Il y a peut-être des gens qui ont écrit avant, ça c'est possible. En tout cas, nous n'avons rien avant Paul, et ces lettres sont de 49 à 58 après Jésus-Christ, donc vous voyez très vite après quand même, puisque 30 à 50 à 49, ça vous fait 19 ans après. Déjà, Paul a rassemblé, fondé des petits groupes chrétiens, et il écrit, donc il est parti, et il écrit à ces gens de Thessalonique qu'il a rassemblés, qui sont déjà chrétiens, puis en 51, 52 aux gens de Corinthe, etc. Donc les premiers témoignages que nous avons, ce sont les lettres de Paul. Il y a aussi, évidemment, une énorme tradition orale qui se construit et qui avance, parce qu'on raconte l'histoire de Jésus, on célèbre, on raconte sa passion, on raconte sa mort, on célèbre son dernier repas, on raconte l'expérience de la résurrection. Mais tout ça, finalement, n'apparaîtra pour nous qu'à partir du premier évangile que nous avons sous la forme actuelle de l'évangile de Marc, dont on discute, mais qui est autour des années 69-71.
J'ai demandé donc à Antoine Guggenheim, qui a co-dirigé avec vous après Jésus, précisément ce qu'était d'être chrétien, ce qu'était d'être juif dans cette Palestine du 1er siècle. On l'écoute.
Oh, c'est une magnifique question. Être chrétien à ce moment-là, ça veut dire être un juif qui a reconnu en Jésus les traits de la promesse de Dieu et qui souhaite en témoigner. Témoigner d'abord par sa vie, une nouvelle manière de vivre. On pratique la manière dont Jésus interprétait la loi, avec beaucoup d'intensité et en même temps beaucoup de liberté. On célèbre quelques rites que Jésus a laissés, il y en a deux, pas plus, une prière, on appelle le Notre Père, et un rite de repas en mémoire de lui, qu'on appelle aujourd'hui l'Eucharistie ou la messe. Et ce qui fait vivre les chrétiens, c'est ce témoignage et l'attente dont ils pensent qu'ils la verront dès la première génération, de la venue de Jésus en gloire, de ce qu'on appelle le retour de Jésus. Être juif au 1er siècle, c'est avoir une situation privilégiée dans l'Empire. L'Empire romain a découvert dans cette religion quelque chose d'unique, très respectable, une vraie quête de Dieu, Dieu un, voilà, très mystérieux, un temple sans idole et sans statue, et a reconnu aux juifs, avant que ceux-ci se révoltent contre l'Empire et organisent deux guerres extrêmement meurtrières, a reconnu aux Juifs une situation privilégiée, avec la permission de continuer son culte, sans provocation de la part de l'Empire, laissant les Juifs ne pas vénérer les idoles, et puis permettant même de lever dans tout l'Empire, auprès des Juifs répartis dans tout l'Empire romain et au-delà, de lever un impôt, une taxe pour le Temple. Donc voilà à peu près la situation historique et politique du 1er siècle.
Alors, sur le rapport entre les Juifs et les tout jeunes chrétiens, on va dire, l'historien Bernard Pouderon de l'université de Tours dit qu'en fait, à l'époque, eh bien, un chrétien, c'est un mauvais juif, celui qui, finalement, qui ne pratique plus les rites comme la circoncision.
Alors, il y a chez les chrétiens une grande diversité. Au fond, la diversité est à l'origine dans le christianisme. Et on a, avec Paul, des juifs qui disent moi quand je suis avec d'autres juifs je continue à pratiquer, mais quand je suis avec des païens, il n'y a pas de raison, je fais table commune avec eux. Beaucoup des rites de séparation sont des rites autour de la table. On voit que les apôtres continuent à aller au temple de Jérusalem pour y prier jusqu'à sa destruction, et que la destruction du temple, qui va être un phénomène catastrophique pour le judaïsme, devant repenser toute son organisation sans culte ou en transformant son culte, l'étude du temple est aussi pour les chrétiens un grand traumatisme. Mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui, eux, au contraire, renoncent à toute loi. Et là, c'est Paul qui va les sermonner en disant « Attendez, vous n'êtes pas sans loi, vous avez la loi du Christ ». Et la loi du Christ, comme chaque fois que Paul la commente, il la commente à partir du décalogue, c'est-à-dire à partir de la loi de Moïse.
Est-ce que l'on peut parler d'une séparation à petits pas ?
On pourrait. Au fond, personne ne vit ça comme une séparation. Voilà, personne ne le vit comme une séparation. On continue à se poser les mêmes questions. Comment vivre dans le monde au milieu des idoles ? Quel est le sens de la présence de Dieu dans un monde où il y a de la souffrance ? Comment le savoir des philosophes et des savants peut aller avec les préceptes de Dieu ou la révélation sur la création, on se pose les mêmes questions et on commence à donner des réponses différentes. Ça, c'est vrai. Et à partir du IIe siècle, quand les premiers chrétiens vont faire des grandes synthèses théologiques, je pense en particulier à un disciple d'un disciple de Jean l'Évangéliste qui s'appelait Irénée, qui venait d'Asie mineure et qui a vécu à Lyon, donc on l'appelle nous Irénée de Lyon, quand ils feront une grande synthèse, il y aura tout de suite tout un jugement des chrétiens sur le judaïsme, et de la même manière, on trouve dans les écrits juifs de la même époque, qui seront consignés plus tard dans la Mishnah, la première partie de ce qui deviendra le Talmud, on trouve des jugements sur les chrétiens où on s'interroge, de fait, sur la fidélité de l'un et de l'autre, et dans une visée polémique. Donc on passe en deux siècles et demi, d'un moment où on se pose les mêmes questions, donne des réponses différentes, à un moment où on va faire de la polémique l'un sur l'autre en disant c'est nous les vrais héritiers. Et on va assister à ce qu'on peut appeler une sorte de vol d'héritage de la part des penseurs chrétiens, disant les écritures juives, les juifs ne les interprètent pas comme ils devraient. Ça va être l'origine de la théologie du mépris.
Donc c'est le terreau là de l'anti-judaïsme que l'on voit se former.
C'est déjà de l'anti-judaïsme, absolument, qui est présent, ce qui veut dire que quand aujourd'hui, dans le monde entier, chrétiens et juifs nouent des relations partenariales, des relations d'estime, on crée quelque chose qui n'existait plus depuis 18 ou 19 siècles.
Alors, Roselyne Dupont-Roch, ce que vient d'expliquer le père Antoine Guggenheim fait partie, j'allais dire, de ce grand chapitre sur la séparation des deux religions. Alors, religion avec un entre guillemets, puisque le christianisme n'existe pas encore. Alors, on va déjà rebondir sur ce qu'il dit à la fin, cette histoire de la peu connue en réalité de la théorie de la substitution qui, est à l'origine effectivement de l'anti-judaïsme.
On peut même dire de la théologie de la substitution, puisque courant du IIe siècle, plutôt vers la fin, un certain nombre de penseurs chrétiens ont commencé à dire que les chrétiens étaient le véritable Israël. Et à partir de là, ce que Paul n'avait jamais dit, à partir de là, évidemment, petit à petit, l'idée va être, on se substitue, on remplace le judaïsme qui a eu son temps, qui a été un dans le projet de Dieu qui aurait eu son temps et qui maintenant aboutirait, déboucherait sur le christianisme qui le remplace. Évidemment, c'est faux et les chrétiens aujourd'hui le savent bien. Mais je dirais quand même que ça n'est venu qu'au bout de deux siècles. Avant cela, être chrétien, c'était... Bernard Poudron dit être de mauvais juifs. Pas tout à fait, parce que au moins avant 70, le judaïsme était extraordinairement divers. Et donc, les premier groupe chrétien, en tout cas ceux de Palestine, qui étaient tous en fait des juifs d'abord, continuaient des juifs un peu différents des autres, mais ils étaient tous tellement différents les uns des autres. Vous aviez les pharisiens et les sadducéens qui se haïssaient, donc de toute façon on pouvait aussi être chrétien à côté. Je veux dire qu'il n'y avait pas une différence très marquée, mais il y a quand même des marques de ce christianisme, d'autant que en fait on va continuer à être juif, mais sans exclusive. Et très vite, avec Paul et avec les apôtres qui seront convaincus, les communautés chrétiennes vont s'ouvrir, même si c'était toujours un peu difficile, aux païens. Ceux qui sont dans le judaïsme, qui viennent du judaïsme, continueront à être circoncis, pas interdit, mais on ne circoncira pas les païens, on les prendra tels qu'ils sont. Et donc, du paganisme comme du judaïsme, on peut devenir des chrétiens. Alors, comment ça se manifeste? Ça se manifeste d'abord parce qu'on se rassemble. Vous allez me dire, toutes les religions font ça. Mais oui, les chrétiens font ça, comme le faisaient les juifs, comme le faisaient aussi les romains qui étaient affiliés à certaines religions venues d'Orient ou d'Égypte, le culte d'Isis ou le culte de Sérapis. On appelait ces petits groupes dans l'Empire romain des thiases. On se rassemble autour d'une divinité, au sanctuaire. Alors les chrétiens ne se rassemblent pas au sanctuaire, ils se rassemblent dans les maisons, dans les ateliers des artisans, dans les boutiques. Mais ces tout petits groupes chrétiens, ils ont comme marque, ils se rassemblent entre eux. Ils se rassemblent entre eux pour quoi faire ? Pour faire mémoire du Seigneur. et célébrer ce repas du Seigneur qui, au fond, la seule marque, le seul rite que Jésus leur a laissé, prier, mais il prie avec les Juifs. Et donc, c'est ce repas du Seigneur qui va les marquer. Et
la puis, scène, hein, ce qu'on appelait la
ce
scène.
Ce qu'on a appelé ensuite la scène, oui. Voilà, qu'on appelle à l'époque le souper du Seigneur. Hein, Paul dit bien le souper du Seigneur. Et aussi par un mode de vie, mais qui se branche sur ce qui se vivait dans le judaïsme, qui est fait de partage et d'aumône. Ils ont même tenté probablement entre eux un partage complet des biens. Ça a sûrement vite mal tourné. Mais il y a quand même une générosité, une attention aux frères. D'ailleurs, on s'appelle frère ou sœur, qui est extrême dans ces petits groupes chrétiens. Et ça, même les païens le reconnaissent.
Alors, on a souvent dit que le christianisme, c'était une secte juive. Est-ce que vous partagez cette définition populaire ?
Alors, secte, pas au mauvais sens du terme, pas au sens du terme d'une emprise sur les esprits et d'une captation à la fois de l'intelligence et des biens et de la richesse. Non, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des hérésies, alors ça a donné hérésie. Bon, des groupes juifs, au moins jusqu'à 70, extrêmement différents, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment très différents. Les baptistes, Jean-Baptiste, refusaient les sacrifices du temple. Les Esséniens, eux, ils étaient partis dans le désert. Ils s'étaient éloignés et complètement coupés du reste. Donc, c'était un groupe juif, oui, différent des autres. Et évidemment, lorsqu'après 70, le judaïsme va émerger d'une tourmente terrible, restant d'ailleurs pas centré sur le pharisaïsme, il est encore divers, mais enfin va essayer de se reconstruire autour de ce qui lui reste. Et il lui reste quoi ? La loi, le livre, hein, cette terre portative qu'est la Torah. Les chrétiens vont apparaître comme un groupe différent, comme un groupe dissident, puisque ce n'est pas le livre du tout, ils ont les mêmes écritures que les juifs, mais c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ vivant qui les envoie l'annoncer aussi au monde païen. Voilà, à partir de ce moment-là, on n'est plus de moins en moins dans un groupe juif, on est dans ce groupe qui va se différencier progressivement. Mais comme le disait Antoine Gonaille, pendant très longtemps, il va y avoir des pratiques communes. J'allais dire, au niveau de la vie quotidienne, on ne se différencie pas tellement. On fête le sabbat avec les juifs et des groupes juifs fêtent le dimanche chrétien ou le repas du Seigneur chrétien. On a même au IIIe siècle, au moment des premières persécutions, des juifs qui accueille des chrétiens dans les synagogues pour les protéger. C'est au fond au niveau des penseurs que les choses vont se faire et que les responsables de communautés et les penseurs chrétiens vont essayer de différencier, de distinguer. Et c'est là que finalement les divisions et au fond cette théologie de la substitution qui va engendrer un mépris et puis des termes épouvantables comme le terme déicide qui apparaît vers la fin du IIe siècle, c'est là que ça va se développer.
Ah oui, mais déicide, ça
apparaît Méliton de Sarde avant la fin du IIe siècle. Et ça, c'est tragique. Mais au niveau du peuple, on arrive à vivre ensemble pendant très longtemps.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Roselyne Dupont-Roch pour « Après Jésus, l'invention du christianisme » publié chez Albin Michel. Une question, Roselyne Dupont-Roch, pourquoi s'être arrêtée dans ces premiers temps du christianisme en 250? Pourquoi? Parce qu'on a envie de se dire, pourquoi pas le concile de Nicée et toute la question autour de la nature de Jésus?
Oui, alors la question, là aussi, on se l'est posée, parce qu'il y a eu des débats très longs, on a mis très longtemps à décider qu'on n'irait pas jusque, justement, à Nicée, qu'on n'irait pas jusqu'à Constantin, parce que la coupure normale, c'est Constantin. Oui. Actuellement, dans la classe de seconde, dans les programmes officiels, on enseigne le christianisme à partir de Constantin. Comme si le seul christianisme qui ait jamais existé était ce christianisme, au fond, d'empire. qui a été celui de Constantin, même si le christianisme n'est devenu religion officielle que sous Théodose à la fin du IVe siècle. Mais enfin, voilà, on commence là. Or, nous, on voulait dire non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Auparavant, on a un christianisme beaucoup plus divers, beaucoup moins institutionnalisé, beaucoup moins fiché, un christianisme qui se cherche, un christianisme qui, bien sûr, commence à exclure, mais finalement, qui vit quand même dans une grande diversité de formes, de façons de vivre, de façon de penser et même de théologie, avec des grands théologiens qui commencent à resserrer, mais ou à chercher à poser les bases d'une théologie chrétienne. Donc, on s'est arrêté en 250 pour au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que en 251, avec l'empereur Dèce, éclate la première véritable grande persécution dirigée, pas directement contre les chrétiens. Dès il fait une supplication pour l'Empire. Mais comme il faut resserrer l'Empire romain qui explose à cause des invasions barbares, et que déjà Caracalla avait essayé en 212 de dire que tout le monde était citoyen romain là-dedans. Il faut resserrer. On resserre autour de quoi? Eh bien autour, j'allais dire, de la religion de l'Empire, de la religion romaine. Il faut sacrifier au dieu de Rome, à l'empereur, mais il n'y a pas de divinisation encore de l'empereur. Hein. Il faut sacrifier au dieu de Rome, éventuellement sacrifier à l'empereur. Il faut manifester qu'on est des bons citoyens de l'Empire. Et à ce moment-là, les chrétiens qui ne veulent pas sacrifier publiquement au dieu de Rome parce que ce sont des idoles, eh bien, ils vont être directement visés.
Donc, voilà. C'est assez politique, en fait,
À ce moment-là, c'est assez politique. En même temps, en 251 aussi, apparaît le premier sermon, le premier écrit de Cyprien sur l'unité de l'Église. Un premier discours sur l'unité de l'Église. Et donc, Cyprien de Carthage, un père de l'Église très influent, qui est souvent en débat avec le responsable, l'évêque de Rome, il n'y a pas de pape à l'époque, ou en tout cas plusieurs évêques un peu partout dans l'Empire s'appellent des papes. Pape, c'est à la fois papa et le père spirituel. Voilà. Donc, Cyprien de Carthage écrit ce premier traité d'unité de l'Église, un traité qui est d'ailleurs basé sur la communion des églises locales entre elles, mais où on voit apparaître une sorte d'institutionnalisation de l'Église avec une gestion beaucoup plus ferme. Et donc, nous avons voulu nous arrêter avant ça pour montrer qu'avant, il y avait la diversité des possibles. Et c'est ça qui est fascinant.
Comment va se construire la théologie chrétienne?
Alors, la théologie chrétienne, elle va se construire à partir des écritures juives. Parce que c'est ça leur tradition à ces premiers chrétiens. Les écritures, le Nouveau Testament, je vous l'ai dit, apparaît tard, les lettres de Paul, les évangiles entre 70 et 80-90. Le premier à témoigner clairement de l'existence d'évangiles écrits, c'est Justin, en 150-155, qui dit que le matin où on célèbre ce repas du Seigneur, c'est plus un repas du soir, c'est un repas du matin, on lit les psaumes et c'est mémoire des apôtres que l'on appelle évangile. Voilà. Et c'est Irénée, en 175, qui dira, il n'y en a que quatre. Pourquoi il y a quatre évangiles? Parce qu'il avait fleuri des tas d'évangiles que nous avons retrouvés depuis des évangiles. On les appelle apocryphes.
Ça veut dire quoi, apocryphes, précisément?
Alors, apocryphes, ça veut dire précisément caché. On a cru que l'Église les avait cachés parce que les autres ont été recopiés à l'infini énormément et nous en avons des témoignages tout au long de l'histoire et que ceux-là ont été peu recopiés, ont disparu et quand on a retrouvé souvent tardivement des traces, l'évangile de Pierre au XVIIIe siècle, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été peu recopiés, parce que les chrétiens les avaient abandonnés. Soit que le sens chrétien ne s'y retrouve pas.
Oui, est-ce qu'il gênait? C'est ça, quand même, c'est une vraie question.
Et ça gênait le sens chrétien. Et oui. Ce qu'on appelle aujourd'hui le sensus fidei, en latin, le sens de la foi, déjà était là. C'était pas conforme à ce qu'Irénée appelle la règle de foi. Et puis, il y a les responsables d'église qui, pendant un certain temps, acceptaient qu'on les lise. L'évangile de Pierre, on le sait, a été lu pendant un certain temps en Orient. Puis un jour, il y a un évêque, Sérapion, qui a dit non, ça correspond pas. Ça correspond pas, c'est pas conforme à la règle de foi, on ne le lit plus, donc on ne le recopie plus. Et dans l'Antiquité, quand on recopie plus un texte, eh bien, il s'use et il disparaît. Donc on l'a pas caché, c'est nous qui l'appelons apocryphe, parce qu'on a voulu faire un procès à une église qui aurait caché quelque chose, elle a rien caché du tout.
Ces évêques travaillent en réseau.
Complètement.
À une époque où il est difficile quand même de communiquer. Comment
Mais non,
ça se passe
c'est pas... Alors c'est ça qui est fascinant et... Moi, je le savais un peu, mais je l'ai magnifiquement découvert grâce aux historiens qui ont travaillé.
Marie-Françoise
Basselès, qui est une historienne remarquable de cette époque, qui montre à quel point, non, on n'était pas isolés les uns des autres. On n'avait pas Internet, mais on s'écrivait, mais il y avait des messagers. Ça communiquait de façon étonnante. Alors sûrement sur des durées plus longues.
Oui, voilà, c'est ça.
La durée de la lettre et du transport de lettre. Oui, mais n'empêche que ces gens-là s'entendaient. Et Paul lui-même, dans son déploiement missionnaire, a suivi une stratégie qui, en fait, suivait les réseaux qu'il avait, qui étaient des réseaux de l'artisanat juif, des commerçants juifs, de certains fonctionnaires romains que sa famille connaissait, etc. Donc les réseaux existaient, on se déplaçait et on communiquait.
Vous voulez dire que les soldats romains ont pu jouer effectivement dans cette extension du christianisme,
beaucoup les commerçants, et les juifs étaient des commerçants essentiellement, venus à Lyon jusqu'au milieu du IIe siècle. Lyon est la seule ville de Gaule où on a un témoignage de christianisme. Et lorsque on dit aux historiens du christianisme en Gaule, qui nous disent d'ailleurs dans ce livre, rien avant 180 et même avant 200, on leur dit Lyon, ils nous répondent, mais Lyon est une ville orientale. Ah bon ? Lyon est une ville orientale ? J'ai appris ça. Mais oui, parce qu'à Lyon, c'est Irénée qui est l'évêque de Lyon, que nous connaissons bien. Mais Irénée, il vient d'où ? Il vient d'Asie mineure. À Lyon, c'était essentiellement le lieu de commerce où des commerçants juifs venaient rencontrer ceux qui arrivaient effectivement du nord, de l'ouest, etc. Et donc, il y avait là une communauté chrétienne qui était née et qui s'était développée avec les martyrs de Lyon en 177, bien avant que le christianisme touche le reste de la Gaule.
À propos des réseaux d'évêques que nous venons d'évoquer, Marie-Françoise Basselès, qui est une des contributrices de l'encyclopédie Après Jésus, en tant que spécialiste des premiers temps du christianisme, Marie-Françoise Basselès avait écrit en 2016 un livre chez Fayard, Les premiers bâtisseurs de l'Église, qui s'appuyait sur les correspondances des évêques entre eux. Et je l'avais alors reçue dans l'émission, et elle nous expliquait la place et le rôle de l'évêque qui écrit et qui voyage.
Ils ont tous cette double dimension, un enracinement local profond, solide, et en même temps donc une dimension internationale. Ils sont habitués à voyager déjà auparavant. Donc on commence par s'écrire, et au fond l'apport là des chefs de communauté chrétienne a été de multiplier le type de lettres, de les périodiciser. Et également, donc, d'en vérifier l'édition, parce que les écrits voyageant par des convoyeurs de proche en proche, on pouvait les manipuler. Il y a eu aussi un souci, donc, de fixer le texte, d'éditer les lettres. Cyprien de Carthage, là-dessus, est tout à fait intéressant. Donc, ils ont beaucoup fait progresser la communication épistolaire. Saint Paul l'avait fait progresser dans la forme, comme on dit toujours, rendre l'absent présent. C'est un nouveau mode de communication. Les évêques en font un outil régulier, en quelque sorte. Et en même temps, ce qui est assez émouvant, c'est que ça leur sert à diffuser les textes de l'Écriture. Au fond, le canon des textes révélés du christianisme surgit des échanges épistolaires, ce qu'on va garder. Deuxièmement, donc, de faire émerger une doctrine, un consensus doctrinal, et ça on s'y attend, mais également donc de faire partager un vécu. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on sent dans ces lettres qu'être chrétien à cette date-là, c'est pas seulement adhérer à une doctrine, c'est pas seulement être membre d'une communauté, c'est partager un vécu, c'est partager un destin commun.
Vous écrivez, l'évêque se conçoit comme la courroie de transmission qui fédère la communauté locale et la rattache à l'Église universelle. Chez Ignace d'Antioche, cette conviction se fonde sur une conception mystique de l'Église universelle dont le Christ est la tête et le chef invisible.
Oui, et dont les prêtres, les presbytres prolongent l'autorité, la légitimité des apôtres et des douze. Ça, c'est le schéma idéal, le fondement ecclésiologique qui va finalement dominer ensuite. Un évêque entouré d'un conseil de prêtres avec des aides comme les diacres pour l'aider. Mais il a fallu quand même plus de deux siècles, il a fallu deux siècles pour le mettre en place. Et il a fallu l'intégration dans l'Empire romain pour le mettre en place. Toni perusion dicti, cengitos phileon, ton aprosito prosage. Oh,
On va revenir avec vous en arrière. Roselyne Dupont-Roc, vous allez nous commenter ce que va dire Marcel Gaucher, à qui j'ai posé la question concernant Paul de Tarse. Paul de Tarse, présenté souvent, et ça je sais que vous n'êtes pas d'accord, comme le fondateur du christianisme, l'architecte du christianisme, et puis également comme une sorte de révolutionnaire. Alors voilà, on va écouter déjà Marcel Gaucher, et puis vous nous direz votre réaction.
Alors, je dirais pas qu'il apporte une révolution, je dirais qu'il accomplit le mystère de Jésus en explicitant cette figure totalement inattendue, totalement imprévisible.
Inversé, oui, de ce qu'on... Oui.
Du Messie inversé. C'est lui qui explicite, au fond, ce qui restait obscur, même dans le noyau premier des fidèles de Jésus, dans cette figure avec sa signification, parce qu'il est celui qui l'insère, en reprenant le judaïsme à son compte, il l'insère dans l'histoire juive, il en fait une étape dans l'histoire de la révélation. L'histoire de la révélation pour les juifs est celle qui s'attache à la figure de Moïse. Il intègre Moïse en faisant de Jésus une sorte de nouveau Moïse qui achève l'œuvre messianique qui était entamé, et en donnant sa version définitive. Et il en tire cette chose déterminante pour l'histoire chrétienne ultérieure, qu'est l'idée du salut universel, d'un salut ouvert à tous les hommes et à toutes les femmes. C'est la formule fameuse, ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme. Il est l'introducteur de l'universalisme chrétien, ce qui n'est pas une petite affaire. Mais oui, ça ne veut pas dire que c'est le fondateur du christianisme, comme on l'a voulu dire. Mais il représente une étape décisive. Sans Paul, il n'y aurait pas eu d'histoire chrétienne ultérieure. Après, cette histoire se compose d'autres strates, évidemment, que le livre expose très bien. Mais c'est le tournant crucial, à mes yeux, par lequel la figure de Jésus trouve son assise définitive dans le grand récit du salut de l'humanité par rapport au péché originel et à ce qu'elle ouvre comme nécessité d'une rédemption finale.
Et dans sa vision précisément des rapports avec le pouvoir, il y a quelque chose de très subversif chez Paul de Tarse qui finalement, en quelque sorte, si j'ai bien compris, d'ailleurs, votre postface, Marcel Gaucher, il désacralise les pouvoirs temporels.
Alors, ça, c'est, je crois, le nœud de toute notre histoire politique ultérieure, qui se joue là, en quelques phrases. D'un côté, il dit qu'il faut obéir aux pouvoirs temporels, puisqu'ils sont désignés de Dieu. Donc, on peut en tirer une philosophie de l'obéissance et de la soumission. Mais il dit en même temps qu'ils sont établis de Dieu, mais ils ne comptent pas comme des pouvoirs sacrés, puisque le pouvoir sacré, il a été une fois pour toutes matérialisé dans l'histoire humaine par la figure du Christ. Donc, aucun pouvoir n'est sacré. C'est l'implicite de la position paulinienne. Et donc, il faut leur obéir, mais ils ne sont pas sacrés. Alors, sacré est une équivoque redoutable entre des gens qui vont prôner l'obéissance et des gens qui vont dire « d'accord, obéissons, mais sachons que ce pouvoir, est purement humain ». Et à partir de là, on peut tirer toutes sortes d'hypothèses sur la nécessité humaine de ce pouvoir et la manière de le pratiquer.
Est-ce que l'on peut dire que le christianisme, ce sera un peu plus tard, bien sûr, non pas dans les premiers temps, mais un peu plus tard, va créer les conditions d'une contre-société, Marcel Gaucher?
Alors, là aussi, il faut respecter l'équivoque. C'est très ambigu, parce que à la fois les chrétiens vont être hors du monde, puisque eux, ils vivent en vue du salut. Ils attendent le jugement dernier. Ils sont donc en dehors des liens ordinaires de la société. Mais ils sont en même temps dans le monde. Ils sont dans le ils obéissent aux règles générales de la société. Ils s'organisent en effet comme une sorte de contre-société, mais une contre-société dans la société. Et il va y avoir une dialectique permanente, des tiraillements profonds. Hein. L'histoire du christianisme, c'est un peu l'histoire des contradictions qui sont liées aux conditions de sa fondation. Et de ce point de vue-là, cette ambiguïté, être dans le monde, être hors du monde, est la clé de la dynamique chrétienne sur la très longue durée.
Alors, Roselyne Dupont-Roch, beaucoup de remarques à faire à partir de cette analyse très très fouillée hein, de Marcel Gaucher, donc qui signe la postface hein, d'après Jésus. La première
remarque, c'est, je dirais dans son sens, Paul n'est pas le fondateur du christianisme, on l'a dit, c'est une absurdité. D'ailleurs, Paul lui-même dit bien qu'il n'y a qu'un seul fondement, Jésus-Christ, sur lequel lui et d'autres bâtissent. Voilà. Donc Paul, vous avez eu un mot très juste tout à l'heure en disant il a été l'architecte. Alors, il le dit lui-même, l'architectone, je suis l'architecte. Mais pas l'architecte au sens où nous l'entendons, pas celui qui fait les plans ou le maître d'ouvrage. L'architecte en sens qu'il est le chef de chantier à certains endroits. Il va de chantier en chantier. D'ailleurs, il compare toute communauté chrétienne à une plantation et à un chantier. Et il se compare, lui, au jardinier, tandis que c'est Dieu qui fait croître, ou au chef de chantier qui encourage et qui lui-même pose la pierre s'il le faut et fait avancer les maçons. Voilà. Donc Paul est celui, au fond, qui a fondé non pas le christianisme, mais des églises. D'ailleurs, c'est lui qui donne au premier groupe chrétien qu'il rassemble cette incroyable dignité du mot d'ecclésia. Ecclésia dans le monde gréco-romain, dans les cités, c'est l'assemblée du peuple. C'est l'assemblée qui vote les lois. Et c'est l'assemblée des hommes libres. Tandis que Paul donne ce nom à un groupe de chrétiens qui est formé de femmes et d'hommes, mais aussi d'esclaves et d'hommes libres, et de toutes sortes de gens de milieux divers qui, effectivement, n'auraient pas eu droit de cité dans la cité grecque.
Oui, parce qu'il faut préciser que l'Empire romain, c'est beaucoup d'esclaves.
Ah ben c'est au moins entre 10 et 30% d'esclaves. On ne sait pas bien, mais quelque chose comme 10 et 30% par endroit, donc c'est énorme. Et beaucoup se sont convertis au christianisme, et beaucoup ont eu des places importantes dans les communautés, puisque Pline le Jeune, en 115, dit bien à Trajan qu'on lui a dénoncé des chrétiens et qu'il a vu arriver deux jeunes femmes qui sont des esclaves chrétiennes responsables de la communauté. Voilà. C'est étonnant. Voilà, donc ce Paul, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il rassemble, il met en route, il n'organise pas. Il laisse les gens s'organiser eux-mêmes, avec une grande liberté, c'est très divers. Et puis il s'éloigne, peut-être parce que sa présence était un peu massive et certainement lourde. C'était un homme très, très impérieux, certainement, autoritaire. Donc il s'éloigne et il écrit. Il écrit pourquoi ? Il écrit non pas pour donner des ordres d'organisation multiples, pour répondre aux questions et pour ramener toujours à l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est Jésus-Christ crucifié. Et donc cette inversion complète des valeurs, c'est un scandale pour les juifs, puisque le crucifié, c'est le maudit de Dieu. C'est une folie pour les grecs, puisque le crucifié, en gros, c'est le supplice des esclaves et de ceux qui sont même pas humains. Mais voilà, c'est ça que Dieu a promu. C'est Dieu que Dieu a promu et c'est à ça que vous êtes appelés, à cette dignité-là nouvelle.
Le nouveau Moïse est un messie inversé.
Oui, c'est plutôt, à mon avis, Matthieu qui voit Jésus comme un nouveau Moïse et dictant une loi nouvelle. Paul minimise la figure de Moïse parce que pour lui, ce qui compte, c'est la promesse à Abraham et qu'au fond, cette promesse auquel Abraham répond par la foi est une espèce d'anticipation de la foi dans le Christ qui accomplit la promesse. Et au fond, il n'évoque Moïse que comme celui qui est la loi. Moïse représente la loi dans le monde juif. La loi qui est venue, eh bien, parce que manifester les transgressions, faire prendre conscience du péché, mais qui a un rôle finalement pour Paul assez secondaire.
En conclusion, Roselyne Dupont-Roch, de l'après-Jésus, l'invention du christianisme, est-ce que l'on peut dire que l'universalité, l'universalisme hein, du christianisme, déjà donne les conditions de ce qui sera beaucoup plus tard, ce qu'on appellera beaucoup plus tard la mondialisation.
Alors là, je voudrais commencer par corriger quelque chose qui ne me paraît pas juste, ou en tout cas pas tout à fait adapté. Dans l'histoire, on considère souvent que l'universalisme du christianisme s'est manifesté lorsqu'il est devenu coextensif à l'Empire romain. Et que c'est l'Empire romain qui est au fond l'ancêtre de la mondialisation. Nous nous sommes arrêtés bien avant, et pour une bonne raison. L'universalisme du christianisme n'est jamais coextensif à une puissance territoriale, ni même à la mondialisation. L'universalisme du christianisme, c'est qu'il s'adresse à tout homme toute femme, tout être humain indistinctement, sans discrimination, sans condition préalable, ni de classe sociale, ni d'appartenance religieuse, ni de comportement moral, ni de d'appartenance quelle qu'elle soit.
Voilà. Ni territoriale, bien sûr.
Et surtout pas territoriale. Et donc, pendant presque plus de 300 ans, le christianisme a vécu à l'intérieur de l'Empire romain sans se confronter, au fond, au pouvoir, sans s'opposer, simplement parce qu'il s'adressait à chaque être en tant qu'il était aimé et appelé par Dieu et, au fond, appelé à devenir un disciple du Christ.
Alors, une dernière question. Dernière question. Pourquoi ça a marché ?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais
c'est
pas.
Mystère.
Les chrétiens vous répondront, et moi avec, la force de l'esprit. Il y avait certainement dans ce message, dans la façon d'être de Jésus, et cela Paul le reprend très bien, ce renversement de toutes les valeurs, de toutes les garanties, de tout ce qui au fond font les certitudes éphémères et illusoires auxquelles on s'attache normalement. Et donc quelque chose qui au fond permettait à l'être humain d'émerger dans sa dignité, dans le fait qu'il était aimé, quoi qu'il arrive. Et ça, je crois que c'est très fort et que ça traverse l'histoire.
Et nous arrivons à la fin de cette émission avec une question. Faire revivre ces premiers temps du christianisme, qu'est-ce que cela apporte pour notre 21e siècle ? Question posée au père Antoine Guggenheim.
Alors, bien sûr, faire revivre cette époque du christianisme, c'est d'abord faire œuvre d'historien. C'est-à-dire apporter un regard critique sur la manière dont le christianisme lui-même se raconte. Moi, dans mes études de théologie, on me racontait une espèce de flèche continue qui va jusqu'à Constantin et l'installation de l'Église chrétienne comme un ensemble unifié, régulé par une doctrine, organisé autour d'une hiérarchie, ou en tout cas, sinon d'une hiérarchie, d'un collège d'évêques réparti dans le monde entier. L'avantage de ce livre, en s'arrêtant en 250 et en prouvant la cohérence de ce choix chronologique, c'est de montrer qu'en fait, la diversité est originelle. Il n'y a pas un grand arbre chrétien issu des origines dont des branches seraient séparées au fur et à mesure, entre catholiques et orthodoxes, entre catholiques et protestants et que sais-je. Il y a une diversité originelle qui n'est régulée que par quelques paroles de Jésus appelant à l'unité, que l'on connaît chez saint Jean par exemple, par peu de rites, on l'a déjà dit, l'Eucharistie, le Notre Père, et quelques règles doctrinales simples, surtout un mode de vie. Le deuxième avantage de faire revivre cette époque, comme vous le dites, je pense que c'est un bel éloge des auteurs qui de fait écrivent bien, pour la plupart d'entre eux bien
tout
sûr,
à fait, tout à fait.
C'est de montrer que c'est une époque des possibles. Les potentialités sont là. On ne sait pas où on va aller, l'histoire n'a pas de finalité inscrite dès le début, mais beaucoup de choses sont possibles. Et la pluralité des possibles peut être inspirante, cette fois-ci non plus pour l'historien, mais pour l'homme et la femme d'aujourd'hui qui se dit à l'origine Jésus, quelques hommes, quelques femmes, aujourd'hui 2 milliards de chrétiens. Comment on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, on est passé par un chemin historique, d'autres auraient pu être suivis. Le troisième intérêt de cette œuvre historique pour aujourd'hui, c'est de mettre à jour une époque où le christianisme est sans prétention politique et sans menace politique, alors que la suite de son histoire, en Occident en particulier, va être une série de conflits, soit entre l'empereur et l'Église, soit entre l'Église et l'empereur, soit entre les Églises et les régimes démocratiques et républicains qui s'installent. Je pense que ce sont les principaux points. On pourrait en ajouter un autre. En arrêtant ainsi la période à 250, on permet que le volume soit déjà important, il fait 700 pages, un peu plus, mais d'une taille raisonnable. Il ne s'agit pas de se lancer dans une nouvelle histoire de l'Église, d'analyser l'ensemble, mais on s'arrête avant une immense période de créativité intellectuelle, celle de la fin du 3e siècle, celle du 4e, puis du 5e siècle. Et donc le livre garde une taille raisonnable, ce qui, pour l'homme ou la femme cultivée d'aujourd'hui, présente l'avantage de s'adresser un objet que l'on peut parcourir, auquel on peut revenir, on n'est pas noyé.
Sur le plan du message chrétien, cela veut dire quoi finalement aujourd'hui, cette invention du christianisme que vous avez mis en avant dans le titre, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui le christianisme peut encore s'inventer ?
Exactement. Alors le mot invention, on l'a aimé parce qu'évidemment il a plusieurs sens. Inventer, ça veut dire rien n'existait et on crée tout. Et cette théorie existe. On sait bien qu'il y a eu de grandes discussions Est-ce que c'est Paul qui a créé, qui a inventé le christianisme, alors que Jésus était un prédicateur galiléen, exalté, sympathique, mais sans aucune perspective d'avenir? Donc ça, c'est le premier sens. On le rencontre et il y a des articles qui répondent à ça, en particulier, comme on l'a entendu plus tôt dans l'émission, au sujet de la place que Paul s'assigne à lui-même comme un disciple et quelqu'un qui pose sur un fondement qui est déjà là. Mais l'idée d'invention, à mesure que je médite sur ce que nous avons fait, m'apparaît comme une sorte de matrice. Cette grande religion, et peut-être qu'on pourrait faire l'étude pour d'autres, a mené un débat au long des siècles, dans les cultures et dans les différents pays où il s'est répandu, un débat avec la culture en place. Pourquoi ? Mais parce qu'en raison même de l'idée d'incarnation, c'est-à-dire la parole de Dieu se fait chair, elle se fait un être humain qui parle humainement les paroles de Dieu, il devient essentiel de se dire comment on se relie à cet homme, mais aussi comment on invente fidèlement par rapport à lui une manière de vivre de lui, de témoigner de lui, de penser l'événement, de le célébrer dans le culte, adapté à ceux qui sont là. Donc c'est plutôt en rencontrant des cultures différentes que le christianisme prend des formes qui ne s'accumulent pas les unes aux autres, au fond, j'ose le dire, qui n'impose pas une même normativité de garder tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été fait, mais puisqu'on a à l'origine beaucoup de possibles et beaucoup de diversité, chaque époque puise ce qui l'intéresse. À l'époque de Constantin, quand l'empereur devient chrétien, avec une conviction personnelle et peut-être un intérêt politique, on invente une nouvelle manière d'être chrétien, qui sera liée à l'État, encore plus avec son successeur Théodose, qui interdira les autres religions. Cette forme-là, elle va durer des siècles. Grosso modo, elle va traverser pour l'Europe occidentale à nouveau les grandes migrations des peuples, ce qu'on appelle aussi les invasions barbares. Ça va aboutir à une autre invention au XIe siècle, après le tournant de l'an 1000, le pape Grégoire VII, la société s'est reconstruite, la société civile européenne s'est reconstruite, cette fois-ci sous une forme qui n'existait pas dans l'Antiquité, qu'on va appeler la féodalité, avec un système d'organisation hiérarchique de la société, ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui se battent, et à l'intérieur de chacun de ces ordres, une hiérarchie. Et bien, l'Église va s'inspirer de ça, et avec Grégoire VII, se concevoir comme une hiérarchie, d'où les clercs célibataires, qui n'héritent pas et qui ne dépendent pas d'alliances conjugales, et dont les biens restent dans l'Église. Une autre invention, quand la féodalité est passée, c'est le luthéranisme et le calvinisme, bien sûr, et puis du côté catholique, la théologie baroque du Concile de Trente, qui va, elle, vous voyez, on est dans des mouvements millénaires, ou en tout cas sur 4 ou 5 siècles. Après le Concile de Trente, le premier renouveau, il faudra 5 siècles, ce qui est très long, trop long, pour engranger les nouveautés qui sont l'esprit des Lumières, la Révolution, les sociétés de liberté et d'égalité, pas toujours de fraternité, mais en tout cas cherchant l'égalité et la liberté, il faudra attendre le Concile Vatican II pour avoir une sorte de nouvelle invention.
Religion du Monde était présentée par Geneviève Delrue, à la réalisation Steven Hesley. À dimanche prochain pour une nouvelle rediffusion d'été.
Le coq